merci beaucoup aux organisateurs et puis merci beaucoup d'avoir eu cette belle pensée, Samuel. C'est vrai que c'est toujours quand on fait quand on est coupé dans notre élan sur 20 minutes, c'est vrai qu'on fantasme toujours sur la possibilité de prendre la parole plus longtemps. En même temps, après, on se rend compte que c'est vraiment long aussi, une heure. J'espère ne pas vous ennuyer. C'est devenu un peu monstrueux parce que, effectivement, Sam, tu m'avais demandé un panorama, mais tu avais eu raison de dire un panorama depuis les années 70. Or, moi, dans l'idée de panorama, c'était un peu m'inviter à partir dans un de mes délires de folie des origines. Enfin bon, il y a toujours cette sorte de démon des origines, de tentation des origines. Et j'étais content d'écouter tout à l'heure Laurie qui remontait à Charles Perrault. Donc je me remonte à peu près à la même époque de Perrault, pas exactement la même année, mais je vais remonter aussi assez loin. Donc en fait, j'ai juste rajouté au titre de Sadopop et littérature contemporaine, donc deux points, une archéologie. Donc vous voyez que c'est toujours la façon de se donner une licence extrême pour aller très loin dans le temps. Je ne remonterai pas jusqu'au grec, ceci dit, parce que ça m'est arrivé avec Messaline notamment, enfin au latin. Donc, sans plus, je vais commencer et essayer de me contrôler un peu et de couper au fur et à mesure. Les historiens de la violence s'accordent pour dire que celle-ci est invariablement déclinante dans nos sociétés pacifiées. Or, cela même la part d'un aura de scandale et de fatalité inouïe, et paradoxalement d'une fascination qui se donne libre cours dans l'ordre de la représentation, allant jusqu'à l'hyperinflation. En 1998, date de la dernière grande enquête exhaustive sur le sujet, avant donc l'explosion des jeux vidéo et d'Internet, l'Américain moyen de 18 ans avait consommé 200 000 actes de violence représentés à la télévision, qui en génère 812 par heure, alors que le taux d'homicide du pays, pourtant l'un des plus élevés en temps de paix dans l'Occident, était de 6,2 pour 1 000 habitants. Ironiquement, la plupart des recherches sur la violence médiatique, marquées par une longue tradition de panique morale, voudraient au contraire présenter une corrélation d'ordre causal pour démontrer les ravages de l'effet mimétique du représenté. Ces chiffres ont sans doute non plus qu'exploser de façon exponentielle, qu'il suffise de penser au stade stakhanoviste de la violence dans les kill counts sur YouTube ou des shows aussi divers que Walking Dead ou le didactique A Thousand Ways to Die. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est assez délirant. Les taux d'homicide, lui, a chuté à 4,8 l'année dernière. C'est dire si notre imaginaire assiégé, voire obsidional, est pris dans une spirale de plus en plus fantasmatique. Spirale qui n'a d'équivalent que celle qui régit notre pornosphère, défiant, elle, toute quantification. 4,2 millions de sites sur le web, c'est un chiffre qui circule beaucoup, personne n'a vraiment pu faire le décompte systématique, soit 16 millions de visiteurs par mois sur le seul site Pornhub. De quoi chanter avec les touchantes et dépravées marionnettes de Avenue Q, leur célèbre hymne « Internet is for porn ». Je ne vous chanterai pas la chanson. Donc, à l'heure où le « sex sells » est devenu le mantra et le perpetuum mobile de la société du spectacle et de l'hyperconsommation. La littérature, ce négatif hegelien des sociétés modernes, se retrouve au cœur de ce paradoxe. Avec la modernité, le goût du sang passe de la réalité à l'imaginaire et devient un fantasme pour mieux pacifier les mœurs des lecteurs tout en leur offrant l'exutoire des frissons mortels. Je cite ici Robert Muchenblatt dans sa synthèse « Une histoire de la violence ». De manière plus ambiguë, il continue, le genre caméléon de ce que lui il appelle le récit noir, en général, permet aussi de rêver la violence, d'en faire une expérience personnelle onirique, de l'entretenir pour la rendre opératoire et utile à la collectivité en cas de besoin. C'est là un des effets collatéraux du processus de la civilisation des mœurs étudié jadis par le maître de l'historien français que je viens de citer, qui n'est autre que Norbert Elias, évidemment, pour lequel, comme l'on sait, avec la domestication ou courrialisation de la noblesse, parquée et surveillée dans la cour de Versailles après la Fronde, commence une nouvelle ère culturelle qui s'étend bientôt à l'Europe, modifiant les structures psychologiques qui déterminent les rapports humains, au point de devenir un conditionnement inconscient qui distancie les individus de leurs émotions et de leurs pulsions, leur imposant un contrôle rigoureux de leur expression, notamment en ce qui concerne la violence et la sexualité. La culture populaire serait ainsi définie à contrario, dès les premières formes modernes du clivage qui se crée progressivement par le double processus de la curialisation pacificatrice des guerriers et du contrôle des pulsions érotiques des corps aristocratiques par le sensationnalisme même du sexe et du sang. En effet, dès le grand schisme entre les cultures populaires et ce processus de civilisation de mœurs, il a été de bon ton de se distinguer de la vulgarité des premières, traversée par les désordres du bas corporel lubrique et une violence qui fait peur, signe distinctif de ces classes devenues dangereuses. Principal objet des récits à destination du peuple, le crime a suscité depuis 5 siècles la production d'une quantité considérable de discours. Et je cite ici Dominique Khalifa. Occasionnel, canard et complainte, gravure et placard, littérature bleue et littérature de la gueuserie, puis faits divers et romans populaires, tous firent du crime l'un des thèmes principaux, sinon le principe même de leur dynamique narrative. À mesure qu'elle semblait décliner, en tout cas ne plus être un mode naturel de régulation des tensions et conflits quotidiens, La violence criminelle s'affichait de plus belle, signe sans doute d'une intolérance accrue du corps social à son égard. Deux fabriques ou mécaniques significatives se dégagent à l'orée de la première modernité. La naissance du gore littéraire dans les histoires tragiques, inspirées des canards sanglants populaires, et l'émergence d'une littérature érotique spécialisée, fruit et contestation à la fois de la progression de la civilisation des mœurs. Alors que l'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539 visait à renforcer les secrets des procédures criminelles, apparaissent vers 1560, vous voyez que je suis remonté, comme je disais, un peu avant Perrault, apparaissent vers 1560 en France des nouvelles spécialisées dans le récit des crimes les plus horribles, les histoires tragiques. Ces recueils connaissent un succès quasi inégalé, qui repose sur une recette simple et efficace, le scandale, le châtiment et les passions contradictoires qu'ils suscitent. Et il confère au genre de la nouvelle, jusqu'alors assigné au divertissement, les honneurs du récit grave sous la plume d'écrivains missionnaires de la foi catholique qui seront progressivement influencés par les marques stylistiques de l'esthétique baroque. Parallèlement, prolifèrent des petits livres qui racontent des faits divers horribles, crimes, incestes, ensorcellements, tremblements de terre, naissances de monstres, donnés toujours comme des nouvelles réellement accomplies, signe d'un monde allant de mal en pis, naissance pour Jean-Pierre Séguin de la presse à sensation. Une corrélation directe existe entre les deux genres. Les histoires tragiques tirent maintes anecdotes de ce fatras composé d'extraits de l'actualité, de faits divers sanglants, également rapportés par les premiers journaux. Mais le traitement littéraire vise un autre public, ce qui oblige à mettre, je cite un des auteurs de l'époque, ces violentes épices au goût des palais les plus délicats. L'acte central dans ces deux types de récits épouvantables est l'acte sanglant. Deux formes de représentation ont pu être identifiées par Vincent Combes dans une thèse sur la question. L'une élabore une description dynamique et proprement romanesque de la mort, l'autre, qualifiée de mort-tableau, envisage un portrait pictural de la scène, avec moult correspondances esthétiques liées au mouvement maniériste et baroque. L'art s'est ainsi avéré être un puissant vecteur de propagande visuelle introduit au sein de la narration, transformant beaucoup de ces morts violentes, 53 dans le recueil de Rosset, en véritables scènes sanglantes. Fleury, femme déchaînée contre celui qu'elle haït, tire un petit couteau dont, je cite, dont elle lui perce les yeux et puis les lui tire hors de la tête. Elle lui coupe le nez, les oreilles et assistée du valet lui arrache les dents, les ongles et lui coupe les doigts l'un après l'autre. Bon, c'est cité textuellement, c'est réjouissant. La cruelle épouse trahie de la jalousie précipitée assassine son mari endormi. Elle, je cite, lui enfonce par plusieurs fois un grand couteau qu'elle voit préparé par cette horrible exécution dans la gorge, dans le ventre, dans l'estomac, et à coups redoublés, elle chasse l'âme du corps du déplorable et trop loyal Paulin. Pour se venger d'un conjoint infidèle, la mère Médée tue ses enfants à coups de hache, tandis que le mari trompé du cœur mangé offre comme mets de choix à sa moitié le muscle cardiaque de son amant. On reconnaît là la monstrification des sources tragiques antiques et médiévales très connues. Ce dernier motif revient dans Les Canards, où une jeune fille abusée fait manger à son amant le cœur ou le foie de leur enfant. La récurrence des motifs et l'organisation tant symbolique que systémique des instruments de la violence conduisent la critique à parler d'une grammaire de la cruauté. Le principe de répétition par lequel sont régis ces récits épouvantables fait varier les topoi autour d'une même structure fondamentale. Ce sera le principe même du slasher ou du gore dans son ensemble. Dans les deux cas, canard et histoire tragique, la solution du vraisemblable a été envisagée comme la plus louable pour rendre compte de ces anecdotes qui oscillent entre volonté d'effrayer et nécessité d'établir une leçon crédible pour le lecteur. Comme la pastorale de la peur, selon le terme du célèbre historien des mentalités Jean Delumeau, dont elle est le clair prolongement profane par un processus d'autonomisation de l'exemplum moralisateur propre au discours des sermonnaires, donc on passe du registre des sermons au registre profane des nouvelles, cette littérature belliqueuse se veut profondément active sur le lecteur, que ce soit en lui assénant des images frissonnantes ou des leçons particulièrement strictes, le plaisir s'en voit intimement lié à la nécessité démonstrative. « Oh, chose étrange de la mauvaise nature de l'homme, il est impossible de la changer », s'exclame le narrateur de Rosset. La portée de l'horreur est, dans ces récits d'épouvante, le signe d'une faille ontologique et métaphysique, logique perpétuation du péché originel. D'où le principe tout-puissant de la catamorphe, tout allait de mal en pis, comme le déclare le narrateur des histoires tragiques. Comprenons par là la convergence des éléments narratifs et stylistiques dans une dynamique de chute, entraînant personnages et récits vers une fin tragique et punitive, symbolisant le jugement de Dieu. La précipitation tragique s'exerce à tous les niveaux du récit épouvantable, de la composition narrative au discours et à la phrase même. Dans Les morts entassés, un laboureur en colère tue son fils sans véritable raison, puis se suicide par désespoir, tandis que sa femme, épouvantée face à l'horrible scène, laisse tomber son dernier-né dans le feu. Dans Le veau égorgé, deux garçonnets ayant vu leur père égorger un veau l'imitent en tuant leur petit frère, dont ils cachent le cadavre dans le fourneau. Le récit tente d'entraîner l'adhésion du lecteur à une impitoyable morale punitive après avoir convié, l'avoir convié à explorer de manière imaginaire le monde des interdits. Une double morale dont tout le sadopop ultérieur sera abondamment nourri malgré sa progressive et somme toute ambivalente déchristianisation. La dérégulation des affects est la manifestation concrète du renversement des valeurs. Les principes de l'amour courtois sont systématiquement transgressés et portent les marques de la tragédie à suivre. La violence se trouve ainsi inscrite dans la passion et devient passion de la violence. En exacerbant des passions violentes, incontrôlées et sans retenue, qui renversent toutes les instances de socialisation, l'histoire tragique et les canards s'inscrivent dans le pessimisme anthropologique augustinien, avec ses déclinaisons habituelles à l'égard de l'érotisme et la femme qui est censée l'incarner. Mais témoignent aussi, à contrario, de ce processus donc déjà cité de la civilisation des mœurs, pour lequel la violence devient progressivement un scandale et un tabou. Ces récits ouvrent ainsi, je cite encore Muchenbeld, une nouvelle fenêtre dans la culture occidentale, en transformant le sang en encre, des recueils d'histoires ou des gravures, la réalité concrète en fantasme macabre. Débute alors l'ère du refoulement des pulsions destructrices. Refoulement qui passe, on le voit, par l'étalage de la représentation. Or, dans cette transition vers le régime fantasmatique de la violence représentée, il y a déjà un tournant qu'on peut dire pré-sadien ou même sadien, que l'on affectionne la téléologie ou bien le plagiat anticipatif cher à Bayard. Dans son exaltation des ambiguïtés de la mort et du désir, ce que corroborera l'intérêt profond marqué par le divin Marquis pour ses textes. Ce tournant s'appaire au moment même où, selon l'hypothèse d'un autre célèbre historien des mentalités, Philippe Ariès, on assiste à ce qu'il appelle la naissance du lien entre Eros et Thanatos. Il ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des pratiques, évidemment, que nous, maintenant, on appellerait sadomasochistes, etc., mais c'est plutôt la naissance du point de vue de le passage de ce qu'il appelle la mort du toit, du moins à la mort du toit. Ce lien est comme incarné dans l'émergence de l'algolagnie en tant que nouvelle pratique et progressive structure de sentiment. En effet, en ce grand âge du fouet dans la pédagogie, certaines voix théorisent la dérive libertine de ces disciplines, de Pic de la Mirandole à Coelius Rodiginus ou Otto Brunfels. Je n'ai pas inventé, ce n'est pas un exercice borgésien, mais ils ont des noms très borgésiens. Jusqu'au traité définitif sur la question de Maybone Muse, de Usu Flagrorum in Re Veneria, donc de l'utilisation du fouet dans les choses de l'amour, repris par Schurig en 1720 pour sa Spermatologia. Cette étrange cérémonie de l'administration du fouet attise à ce point le feu de l'extase dans ces gens qu'ils écument et pointent vers le ciel le membre qui prouve leur virilité, écrit Meibomius, avant d'évoquer le cas d'un homme, je cite, d'un tempérament très amoureux qui ne peut caresser une femme sans avoir été auparavant fouetté. Sade lui-même citera, en le remaniant à sa façon, d'ailleurs c'est assez drôle de voir comment il change la citation, un épisode des Dames galantes de Brantôme repris par Meibomius lui-même. Je cite, et là c'est Sade qui cite Meibomius qui cite Brantôme, une mère, ajoute le même, fouettait régulièrement sa fille deux fois le jour, non pour aucune faute qu'elle eût commise, mais pour l'unique plaisir de la contempler dans cette douleur. Quand la jeune personne eut atteint l'âge de 14 ans, elle enflamma tellement la concupiscence de sa mère qu'elle n'était pas 4 heures du jour sans la fustiger cruellement. Bon, ce qui est drôle, c'est que Sade ajoute énormément de détails dans l'horreur au début. C'est pas 4 heures, enfin bon, c'est comme ce que Sade fait en général, puisque vous savez que Sade, c'est pratiquement du collage, du copy-paste, et que c'est une expansion constante par rapport à des anecdotes qu'il a glanées dans sa librairie, dans la bibliothèque de ses différentes prisons. Fantasmisation, on pourrait dire, érotisation, spectacularisation. S'opère ainsi progressivement la transition de la culture populaire de la violence à une culture de l'imprimé qu'on dira populaire par le caractère quantitatif de sa réception. Constamment augmentée, l'œuvre de Rosset d'ailleurs ne connut pas moins de 35 éditions en un demi-siècle, tandis que les canards connaissaient une diffusion qu'on pourrait déjà dire massive. Donc, le caractère quantitatif de sa réception, réitératif de sa production et de son esthétique, qu'on dira sensationnaliste, faisant appel au bas instinct, même si c'est, et ce sera toujours, pour dénoncer le vice, face au culte du juste milieu qui caractérise l'honnête homme de la culture dite policée. Profondément ancré dans le discours dominant de la pastorale de la peur, ces récits épouvantables vont accompagner la progressive exténuation de celle-ci au siècle des Lumières, le genre tragique restant encore très lu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, malgré la médiocrité croissante des auteurs tardifs. Or, pour survivre à la pastorale qui les avait fait naître, ces récits vont devoir muter profondément. Fait symptomatique, Sade lui-même enclenche cette mutation en s'emparant de la forme de l'histoire tragique que ce soit dans la reprise explicite du genre, notamment dans Les Crimes de l'amour et dans son dernier roman, La Marquise de Ganges, réécriture directe de Rosset, ou bien dans les modifications pornographiques radicales qu'il en fait dans ses œuvres clandestines. En inscrivant l'histoire tragique dans le contexte radical de la déchristianisation révolutionnaire, Sade substitue à la cosmovision baroque le règne d'une fatalité méchante, celle-là même qui régit la nature dévorante. Il fait ainsi basculer la pastorale de la peur chrétienne en une nouvelle pastorale, qui sera cette fois-ci cantonnée au pur régime de la représentation fictionnelle, rendue plus horrifique par ce constat dostoïevskien qui l'annonce, Dieu est mort, alors tout est permis. C'est ce tournant qui marque, après une période de transition qui va de Sade à Barbey d'Aurevilly, la mutation de l'histoire tragique vers un des genres les plus tenaces et les plus méconnus de la modernité, le conte cruel, baptisé par Villiers de l'Isle-Adam et parachevé par Octave Mirbeau à la fin du siècle, avant de devenir une des formes les plus galvaudées de notre contemporanéité, qu'elle soit high ou pop, des jeunes cannibales italiens à la saga des Books of Blood de Clive Barker, en passant par les saïnettes meurtrières chantées par maints troubadours folk ou punk. Et là, j'avais quelques citations assez intéressantes parce que, bon, il y a toutes les murder ballads chez Johnny Cash, Elvis, Bob Dylan, John Boyce, Nirvana, bien sûr les murder ballads de Nick Cave, mais aussi les contes cruels de Berrurier Noir que vous connaissez sans doute. Paradoxalement, alors que les canards sanglants représentaient une expression ponctuelle de propagande, lié à un contexte spécifique, c'est lui qui a mieux su se renouveler. Sa forme plus souple lui permit de conserver l'essentiel de ce que le lecteur affriole, à savoir l'anecdote sanglante, tout en se débarrassant du carcan moral. Plus que jamais, celui-ci se trouve d'actualité avec notre esthétique triomphante des faits divers, et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, toujours en sachant renouveler son format. Car comme l'écrit Baudrillard, je cite, « Le fait divers n'est donc pas une catégorie parmi d'autres, mais la catégorie cardinale de notre pensée magique, de notre mythologie. La société de consommation se veut comme une Jérusalem encerclée, riche et menacée. » Et c'est curieux parce que c'est exactement les termes qu'utilisait Delumont quand il désignait l'Occident obsidional, l'Occident qui se sent constamment assiégé par la femme, le diable, le désir, etc. etc. Donc c'est là son idéologie. C'est ici qu'intervient la dramatisation spectaculaire par les masses médias. Le fait divers, catastrophe comme catégorie généralisée de tous les messages. C'est ce qu'avait très bien compris Ballard. À l'origine, je voulais parler de Ballard, mais bon, là, on ne peut pas tout faire. Pour que soit résolue la contradiction entre morale puritaine et morale hédoniste, il faut que la quiétude de la sphère privée apparaisse comme une valeur arrachée, constamment menacée, environnée par un destin de catastrophe. Il faut la violence et l'inhumanité du monde extérieur pour que non seulement la sécurité s'éprouve plus profondément comme telle, cela dans l'économie de la jouissance, mais aussi pour qu'elle se sente à chaque instant justifiée de se choisir comme telle, cela dans l'économie morale du salut. Il faut que fleurissent autour de la zone préservée les signes du destin. Et ça, je pense que Baudrillard était tout à fait dans sa phase ballardienne, et il y a des liens extrêmement intéressants avec The Atrocity Exhibition, Crash, etc. La fascination pour le document d'horreur témoigne encore des Crímenes Ejemplares de Max Haub aux photos de Enrique Metínides ou les installations macabres de Pascal Convert et les vidéos de Christophe Dreger, de la fertilité esthétique de ce courant brut de la violence populaire. Faits divers et contes cruels continueront par ailleurs d'entretenir le même rapport que les canards et les histoires tragiques d'antan, comme le prouvent notamment les superbes nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon et plus près de nous les textes délibérément extrêmes de Supervert dans Perversity Think Tank. Parallèlement à la spécialisation de l'écriture de la violence dans les histoires tragiques, on assiste à la naissance de l'érotisme comme genre littéraire, après une phase de formation qui va des dialogues de l'Arétin à l'école des filles, dans l'écart même entre cette civilisation des mœurs et la résistance du bas corporel à la nouvelle discipline des corps et des affects. Comme pour les autres manifestations pulsionnelles, la sexualité est refoulée, donc par ce processus décrit par Norbert Elias, accentuant les sentiments de pudeur et d'embarras. C'est par une logique oppositionnelle alors qu'émerge aux marges même de cette culture aristocratique de cour et de son extension aux élites bourgeoises urbaines, la littérature libertine puis pornographique, comme l'étudie Alain Corbin dans L'harmonie des plaisirs. Avec la pornographie, il n'est plus question de traquer une parole sur l'intime afin de guérir le corps ou les âmes, comme c'était le cas dans le discours médical et dans le discours théologique, mais de provoquer une excitation du lecteur et un passage à l'acte sexuel. C'est une littérature à lire avec une seule main, bien évidemment. La pornographie promeut l'attente et la montée graduelle du désir et du plaisir jusqu'au coït final, à deux ou lors d'une vaste orgie, si possible dans un cloître ou un bordel. Les jouissances y sont toujours partagées par l'homme et la femme, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le texte de Corbin a bien étudié comment il y a cette théorie sur la nécessité du plaisir pour féminin pour la conception, etc., dans l'harmonie des plaisirs. Donc, à égalité devant le désir et le plaisir. Intarissable sur la description de la chair féminine, blanche, abondante et élastique, sur la taille des pénis et la quantité de foutre, sur les objets exerçant les sensations, gode michée, glace, fouet, la pornographie est en revanche peu précise sur la description des sensations internes. Symptomatiquement, alors que les histoires tragiques érotisent le récit de la violence, le genre licencieux fera progressivement écho à celle-ci. De la place discrète que celle-ci occupe dans la parodie des disciplines monastiques mises en scène dans la Satira Sotadica d'Arcanis Amoris et Veneris de Nicolas Corrier, au délire flagelloman sadien, en version blasphématoire des flagellants chrétiens. Peu à peu, un modèle romanesque s'établit qui suivra un rituel précis, pratiquement inchangé jusqu'au SM chic de notre hypermodernité. Ironiquement, l'itinéraire didactique cher aux productions libertines témoigne de la proximité de la littérature érotique et pédagogique, toutes deux fruits du processus de civilisation des mœurs précisément. On trouve ainsi dans Le Chérubin au gardien de l'innocence féminine de 1792 la location des pensionnats de demoiselles par des vieux libertins qui trouvent plaisir à y voir fouetter les jeunes élèves. Et donc l'on assiste alors à un détournement érotique du dressage disciplinaire tout à fait exemplaire. Donc, je cite, « Toutes les fautes commises, les dérogations au règlement sont soigneusement enregistrées pendant les 4 ou 5 jours qui précèdent la visite du Crésus. Le jour de sa venue est fixé pour l'exécution de toutes les punitions infligées aux élèves. Après avoir fait entrer le vieux birbe dans un petit cabinet adjoignant la salle et dans la porte duquel sont aménagés des trous d'observation, les élèves sont appelés l'une après l'autre, mis à nu, étendus sur un établi ad hoc et fouettés sur leur postérieur en proportion de la gravité de leur faute. Dans la situation où elles se trouvent, les jeunes filles ne peuvent pas se douter un instant qu'elles sont vues de toute autre personne que leur directrice. Et quand le vieux jouisseur, après avoir suivi au moyen d'une lorgnette toutes les faces et les progrès de la flagellation, en est arrivé au summum bonum de sa passion, il sort de son rôle passif et se transforme à son tour en exécuteur. L'on reconnaît là le parfait script sadomasochiste tel qu'il envahit, fait significatif en soi, la production pornographique littéraire des sociétés disciplinaires bourgeoises. Bon, là, je vais sauter un peu sur cette question de la flagellation. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'extension aussi à la vie, à la sous-culture et SM qui émerge dans le XVIIIe siècle. Donc, la flagellation devient un usage généralisé dans les maisons closes du Paris des Lumières et à Londres, d'après les rapports de police de l'époque, etc., etc. Alors, ce qui est assez croustillant, c'est qu'il dit, donc, Gaston Capon, qui a écrit Les maisons closes au XVIIIe siècle, cite l'inspecteur Marais de police, donc l'ancienne brigade de mœurs, « Il n'y a pas de maison publique aujourd'hui qui ne contienne un approvisionnement suffisant de grands paquets de tiges en préparation pour les amoureux impuissants. Cette passion affecte assez singulièrement la plupart des hommes d'église. » Donc, c'est assez sympathique. Pour comprendre comment l'on est passé en quelques décennies de la diffusion du régime disciplinaire à sa reconfiguration fantasmatique dans la scène sadomasochiste, nous devons nous tourner vers l'hypothèse, bien entendu, de la production répressive avancée par Foucault. Le nouveau dispositif de pouvoir disciplinaire ne se limite pas, comme le penseur Freud et les théoriciens de l'émancipation libidinale qui le mêlirent, à une simple répression des corps, des sexes, mais la production de, je cite, une spirale perpétuelle de pouvoir et de plaisir. Donc j'avais une citation un peu longue de Foucault sur, qui est intéressante parce que lui, il ne l'applique pas exactement au sadomasochisme et surtout à son émergence, mais en fait, ça marche très bien par rapport à ça. De ce jeu, le sadomasochisme constitue l'exemple ultime. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, pendant tout le 19e siècle, la littérature pornographique clandestine va être avant tout une littérature de flagellation. C'est assez curieux de voir que c'est vraiment le principe même de la porno victorienne. Et jusque dans les années 30-40, en fait. Soudain, un bloc d'abîme, la radicalité est derrière nous. À la confluence parfaite de ces deux dispositifs de la littérature populaire que l'on vient d'analyser, celui gore des histoires tragiques et celui pornographique du libertinage flagellant, le tournant sadien radicalise définitivement les liens établis en Occident entre Eros et Thanatos. Longtemps isolé comme pure figure du génie visionnaire, l'on sait maintenant à quel point Sade s'inscrivait dans le discours social de son époque, et notamment dans la littérature populaire de son temps, qui associait en une même clandestinité, économiquement rentable et moralement transgressive, pornographie et radicalisme philosophique. C'est la thèse, bien entendu, de Darnton dans The Forbidden Bestsellers of Pre-Revolutionary France. Parallèlement, donc, en passant massivement de l'Angleterre à la France révolutionnaire, le roman gothique devenant roman noir se radicalisait comme le montrent des œuvres oubliées telles que Eugène et Eugénie ou La méprise conjugale de Desforges en 1799, où, je cite, « un homme atroce qui, après avoir brûlé la cervelle à une femme, arrache un faible enfant des bras de sa mère, écrase la tête de cet enfant et le jette dans le feu. La mère désespérée perd connaissance. Pendant ce temps, un misérable la viole et elle le tue quand elle est revenue à elle. Et le commentateur de l'époque, 1799, dit cette production qui annonce une imagination à la De Sade, puisque Sade a été quand même lu. Donc c'est intéressant parce qu'il voit déjà ce lien entre ce tournant de l'esthétisation du crime. Significativement, Sade lui-même devient vite personnage de roman gothique dont il incarne le parfait vilain, homme fatal et libertin prédateur sexuel. Ainsi, l'affaire d'Arcueil est-elle fictionnalisée dans un roman, Le Dominicain ou les crimes de l'intolérance et les effets du célibat religieux, donc c'est toujours littérature anticléricale comme on l'aime bien, 1803, où, entre autres joyeusetés, Malc le Cénobite tourmente la tendre Catherine avec un bâton de cire enflammé. C'est qu'il est, pour l'imaginaire populaire de l'époque, le parfait monstre. La noblesse en tant que classe s'affirme hors la loi. La monstruosité sadienne relève de ce fait structurel en plein contexte révolutionnaire. L'uber-féodalisme des surhommes sadiens s'inscrit parfaitement dans la fantasmatique du chevalier brigand que postule au-delà des romans gothiques pamphlets antinobiliaires de la Révolution. La noblesse étant une institution vicieuse n'a pu produire en général que des hommes vicieux, écrit le bénédictin de la Révolution Jacques-Antoine Dullary, qui sera un des principaux accusateurs de Sade et évoquera justement à l'occasion la figure historique de Gilles de Rais. C'est d'ailleurs dans cette littérature pamphlétaire, plus encore que dans le roman noir, que la jouissance ne paraît possible que lorsque le sexe y est allié à la mort. Reprenant le geste fondateur des histoires tragiques, Sade opère le grand tournant vers la fantasmatique de la cruauté qui accompagne la solidification culturelle du tabou du meurtre dans le champ social. Contre la tradition qui, de Villers, qui est un des premiers accusateurs aux surréalistes, voulut voir dans l'œuvre le reflet de la violence révolutionnaire à l'âge de la terreur. Puis par ailleurs, on sait que les 120 journées sont écrites avant la révolution, etc. etc. Enfin bon. Je me demande, écrit Jean Paulhan dans son introduction à Les infortunes de la vertu, je me demande, quand je vois tant d'écrivains de nos jours, si consciemment appliqués à prendre en toutes circonstances le contre-pied de la création et tout occupés à rechercher le sublime dans l'infâme, le grand dans le subversif, exigeant d'ailleurs que toute œuvre engage et compromette à jamais son auteur, je me demande s'il ne faudrait pas reconnaître, dans une aussi extrême terreur, moins une invention qu'un souvenir, moins un idéal qu'une mémoire. Et bref, si notre littérature moderne, dans sa part qui nous semble la plus vivante, la plus agressive en tout cas, ne se trouve pas tout entière tournée vers le passé, et très précisément déterminée par Sade. Même sentiment chez Bernard Arcan. Depuis que le marquis de Sade a décrété que le seul véritable plaisir dans la vie était d'enculer quelqu'un dont on tranche en même temps la tête, de manière à provoquer quelques délicieuses contractions de l'anus, il paraît difficile d'en rajouter. Ce sera là tout le paradoxe de notre tradition de la transgression contemporaine, que d'avoir toujours la radicalité sadienne derrière elle, comme un horizon indépassable, contrairement à ce que prétend la vulgate de la téléologie émancipatrice ou catastrophiste de la violence des représentations. Avec lui commence réellement l'histoire et la tragédie contemporaine, résume Camus dans L'homme révolté, écrit tout entier à l'ombre du divin marquis, en parallèle à la lecture adornienne qui fait de Juliette le révélateur de la dialectique de la raison qui mènerait directement des lumières à l'Holocauste et au retour, je cite Adorno, de la civilisation éclairée actuelle à la barbarie. Placé sous le sceau du retour du tragique, selon le célèbre titre de Domenac, dénudé cette fois-ci de la justification chrétienne de la souffrance et de la théodicée salvatrice du mal, l'œuvre sadienne s'insurge contre l'affirmation du bonheur des Lumières les plus optimistes dans leur tentation d'angéliser l'homme en s'affranchissant du discours culpabilisant de la contre-réforme. Il faut rappeler par exemple que Louis de Jaucourt écrivait dans l'encyclopédie à l'article Supplice « C'est un phénomène inexplicable que l'étendue de l'imagination des hommes en fait de barbarie et de cruauté, témoignant de ce point aveugle des Lumières dont Sade fera le négatif hegélien, réaffirmant la part inévitable en l'homme des dispositions à faire le mal. » Contrairement aux Lumières et à Kant, qui dans le prolongement de Platon, qui disait donc « Personne ne fait le mal en sachant ce qu'il fait », estime le mal comme hétéronorme à la raison, Sade montre que celle-ci n'est pas liée par nature à la justice et à l'humanisme. Contre la vision qui faisait de la cruauté un pur anti-principe obscur, qui serait sans pourquoi, car il ne contient pas la raison d'une autre chose, selon la définition que donne Leibniz du principe, et ne saurait appartenir à l'ordre du cogito, Sade proclame le paradoxe d'une raison cruelle, qui est aussi une rationalité délirante. Parallèlement à ces scandales de la raison cruelle, Sade instaure l'aporie de la modernité, par laquelle le propre de la création artistique est simultanément une représentation littérale de la barbarie. Je cite Michel Herman, mon ancien collègue et ami, donc son livre sur la cruauté. Donc le propre de la création artistique est simultanément une représentation littérale de la barbarie, une ornementation de la perversité des signes et une figuration du chaos. Pire, Le plaisir esthétique recherché et enduré par les spectateurs et lecteurs consiste à s'émouvoir de la destruction de l'humain par lui-même, à être saisi par la négation radicale et ou perverse de toute harmonie possible. C'est avec Sade, après les excès du théâtre de l'horreur baroque, encore redevable de la théodicée chrétienne, malgré la fulgurance du mal radical qui souvent y triomphe, que la littérature assume ouvertement son lien indissoluble avec la cruauté et le mal. La littérature est l'essentiel ou n'est rien, le mal, une forme aiguë du mal, dont elle est l'expression, a pour nous, je le crois, la valeur souveraine, écrira Bataille, comme vous le savez, dans La littérature et le mal. Là aussi, Sade radicalise des idées préexistantes, notamment la théorie du sublime, défendue par Edmund Burke dans son traité homonyme, qui sous-tendait précisément la vogue de l'esthétique gothique dont héritera le romantisme. Bien, je vais sauter toute une partie sur... parce que ce qui est assez intéressant, enfin bon, c'est le paradoxe du rapport de la modernité avec Sade, puisque depuis les thèses de Mario Praz sur le fait que la modernité est sadienne, mais tout en essayant de se dénier le lien sadien. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a la construction d'une littérature qu'on va dire industrielle. Sainte-Beuve accuse, avec la naissance du roman feuilleton, accuse l'émergence d'une littérature industrielle. Plus tard, on parlera de culture industrielle, culture de masse, etc. On va accuser cette culture-là de fonctionner, de carburer à partir de du sensationnalisme, du sexe et de la violence. Or, l'ironie, c'est que le romantisme noir, donc ce romantisme qui n'est pas juste le romantisme théorisé par les Allemands et les Anglais à la fin du 18e, mais ce romantisme noir qui, pour Praz, traverse tout le 19e siècle jusqu'au surréaliste et l'exténuation des avant-gardes. Ce romantisme noir, lui, il est totalement marqué par à l'ombre, selon l'expression qu'il utilise, donc est tout entier à comprendre à l'ombre du divin marquis. Mais je vais sauter, donc pour ne pas vous décevoir complètement par rapport aux contemporains, je vais sauter à la partie contemporaine de cette histoire. Donc, plusieurs études se sont penchées sur la transformation de cette dialectique, la dialectique qu'en fait la culture populaire nourrit par sa radicalité de sensationnalisme, etc., une culture high qui est tout le temps en train de reprendre les mêmes motifs que la culture populaire, etc., etc. Donc la transformation de cette dialectique à l'âge postmoderne, où après une première période de haut postmodernisme qui recombinait les stratégies modernistes, parodie, subversion, ironie, distanciation, complexification, de réappropriation de la culture populaire, donc les œuvres de Coover, Barth, Bintchen, Manuel Puig, etc., on est progressivement arrivé à une période d'imbrication et pour d'aucuns de quasi-indistinction, n'en déplaise aux partisans forcenés ou nostalgiques des grandes heures de la littérature blanche immaculée. Et la combinaison de violence et érotisme se trouve encore une fois au cœur de ce processus, renforcée par cette culture de l'extrême, voire de l'extrémisation, qu'analyse précisément Paul Arden dans son livre « Extrême, les esthétiques de la limite dépassée ». Je vais devoir couper plus que ce que je ne pensais. Je vais peut-être aller directement à l'exemple sur lequel je m'attardais un petit peu plus, c'est autour de Houellebecq et le Snuff. Bon, face à la flambée du sadopop, plus que jamais présent dans notre iconosphère globalisée, la littérature contemporaine est comme tétanisée, médusée, qu'elle est elle aussi, par toutes les formes de la course à l'extrême. Dire plus, montrer plus, écœurer plus, sous peine de disparition du signe ou de disqualification du spectacle. Suivant la logique capitaliste de l'emballement organisé, je vais citer Arden un peu certaines phrases, le principe de l'accumulation sidérante veut d'une part accumuler, montrer plus, d'autre part sidérer, montrer mieux. D'où la course à l'image extrême du sexe, accumulation des partenaires et des figures érotiques, introduction des gestes violents, humiliation réelle, promotion du gonzo. Vous savez, le gonzo, c'est le stade sans récit du porno contemporain. Et plus prodigue que l'image de sexe en sensation forte, de l'image extrême de la mort, qui excède pour sa part toute limite. Au-delà même de ces contenus violents, l'image extrême fait violence. Elle bouscule autant la norme de l'imagerie socialement admise que ce que le spectateur est censé pouvoir supporter. D'où le pouvoir médusien du mythe des snuff movies qui plane sur notre iconosphère. Véritable trou noir autour de laquelle toute la violence du voir contemporain semble tournoyer, dans l'espoir et ou la crainte de s'y abîmer. C'est ainsi qu'il figure dans un passage célèbre des particules élémentaires de Houellebecq, chapitre 15, donc l'hypothèse Macmillan, illustration de la jouissance traumatique inhérente à l'image extrême. Je vous cite rapidement, parce que sinon j'aurais vraiment pas beaucoup le temps, mais c'est une histoire tellement dégueulasse, reprit Bruno avec lassitude, que j'ai été surpris que les journalistes n'en parlent pas davantage. On avait rencontré à son domicile une centaine de cassettes vidéo de meurtres et de tortures, etc., etc. Dimeola démembrait le bébé devant sa grand-mère à l'aide de pinces coupantes, puis il arrachait un œil à la vieille femme avec ses doigts avant de se masturber dans son orbite saignante. En même temps, il actionnait la télécommande, blablabla. À la fin du film, elle était allongée dans ses excréments, etc. Il s'agit à la fois d'une réécriture de la tradition de la transgression moderniste, en faisant notamment allusion à l'esthétique du comble sadien, il faut toujours plus, et plus concrètement à l'inucléation fondatrice de l'histoire de l'œil bataillien, bien entendu, et d'un écho de la sidération contemporaine face au snuff movies. Ironiquement, cet emblème de l'image extrême contemporaine provient d'un texte méconnu de l'un des grands passeurs du frénétisme moderne, inspiré par un phénomène singulier de sadopop de son temps. C'est dans le contexte des polémiques entourant les films d'exécution, dont le cinéma des premiers temps raffolé, que Guillaume Apollinaire imagine ce qui va devenir par la suite le snuff film. C'est dans son conte cruel ironiquement intitulé « Un beau film » de 1907 qu'il pose les bases du mythe. Un riche et pervers producteur, le baron d'Ormezan, qui désespérant, je cite, de se procurer par des moyens licites le spectacle d'un attentat, décide d'en organiser un dans une villa que nous louâmes à Auteuil. Nous avions d'abord pensé à engager des acteurs pour mimer le crime qui nous manquait, mais outre que nous eussions trompé nos futurs spectateurs en leur offrant des scènes truquées, habitués que nous étions à ne cinématographier que de la réalité, nous ne pouvions être satisfaits par un simple jeu théâtral, si parfait fut-il. Après avoir envisagé en vain de tirer au sort celui qui d'entre nous devait se dévouer et commettre le crime qu'enregistrerait notre appareil, il décide de kidnapper un couple qu'il déshabille devant la caméra, puis un passant qu'ils obligent, sous peine de mort, à commettre le double meurtre. Le dit monsieur accepte poliment, à condition d'être masqué, éveille le couple évanoui et le poignarde après une brève lutte. Ensuite, l'appareil s'arrête. C'est exactement la structure du snuff film tel qu'il est imaginé à partir des années 70. Le film connaît un succès phénoménal, annonçant en toutes lettres la réalité de l'assassinat, ce que la police ne veut pas croire. Comble d'ironie, la police arrête un innocent qui est exécuté devant le même appareil qui avait enregistré le crime, et les bourreaux corsent ainsi leur spectacle d'une nouvelle scène, bien faite pour attirer la foule. Ce scénario, qui pouvait sembler farfelu lors des balbutiements du nouveau médium, contient tous les ingrédients d'une légende qui allait étrangement devenir un véritable fait de civilisation. Un demi-siècle après, ce texte prophétique, qui restera étrangement ignoré de la critique spécialisée, et après le premier cinéma des supplices, qui l'avait sans doute inspiré, une série de facteurs allait entraîner la naissance d'un nouvel engouement fantasmatique autour de la mort filmée, qui ferait du script cruel du poète une virtualité obsédante. Je vous renvoie au livre que je viens de publier avec mon ami Simon Laperrière, donc « Snuff Movies, naissance d'une légende urbaine ». Houellebecq, qui a bien fait ses recherches, fait symptomatiquement allusion à Charles Manson, qui est à l'origine de la cristallisation du mythe inauguré par Apollinaire, en un bel exemple de chassé-croisé sadopop, puisque là on retrouve le pop qui inspire Apollinaire, puis ensuite Apollinaire qui inspire une figure du pop qui est Manson, enfin bon, c'est pas lui qui l'inspire, mais c'est imaginaire. Le texte fait ainsi, par le biais du spécialiste Macmillan, le parallèle avec l'affaire Manson. Rentier, wannabe rocker, sex addict, David va se retrouver dans un cercle de satanistes hardcore californiens qui reprend terme pour terme, mais comme anémié ou désubstantialisé, l'iconographie hérétique appliquée aux sorcières et rendue notamment familière par la figure de Gilles de Rais, saint patron du frénétisme moderne, sade, huisement, bataille, tournée, etc. Alors bon, avec eux, donc, ils font des avortment parties, donc c'est dans le texte de Houellebecq. Après l'opération, le foetus était broyé, malaxé, mélangé à de la pâte à pain pour être partagé entre les participants. Donc c'est exactement ce que l'on reprochait aux chrétiens pendant les persécutions. C'est une très très vieille persécution étudiée par Norman Cohn dans Les démons familiers de l'Europe, puisque c'est l'accusation qui va sévir aussi contre les juifs et contre les sorcières. Donc c'est intéressant de voir cette circularité de l'imaginaire par rapport aux figures de l'horrible. Il castrait le bébé à l'aide d'un couteau et il arrachait puis mastiquait ses globes oculaires, et donc nous avons encore une fois le retour des figures, de l'énucléation, etc. Donc on est vraiment dans une circulation totale du frénétisme sadoérotique. Houellebecq, on le voit, est en train de tracer le portrait robot de l'extrémiste contemporain qui veut reculer toute limite. Dans la genèse du crime ultime, cette immanitas, théorisée justement par Pontano à la Renaissance, à l'époque baroque d'ailleurs, à partir de l'étude des tyrans, qui, je cite donc Pontano, de par le caractère excessif de leurs crimes, se sont retranchés de l'humanité pour rejoindre les bêtes féroces. C'est un principe très intéressant, celui d'immanitas, qui a été très peu étudié par la philosophie, mais qui, évidemment, annonce quantité d'autres choses. Dans la genèse du crime ultime, intervient le spectre de la biopolitique moderne, dont le corps viande du snuff ne serait qu'un effet collatéral. La course à l'extrême passe désormais par la représentation de celui-ci d'où l'équation du Snuff. Donc évidemment, après, toutes les horreurs continuent, mais il commence à se filmer ce cercle de satanistes, et c'est comme ça qu'on en arrive aux Snuff Movies dans le roman de... Et donc, il y a quelqu'un, donc David, sur l'écran, il approchait la tronçonneuse en effleurant doucement les cuisses d'un homme d'une quarantaine d'années. David jouit dans la bouche de la fille au moment où sa lame tronçonnait le sexe. Donc, il est en train de se branler en regardant le fait qu'il est en train de châtrer quelqu'un. Comme le signale Ardenne, l'engrenage séquentiel qui caractérise une telle scène doit moins à ce que pourrait être la réalité qu'au montage cinématographique qui sert de modèle. Donc, esthétique de l'engrenage censé alimenter le paroxysme de la situation. Le tout signalant une fusion réussie entre le visuel et l'incarné, entre ce qui s'incarne dans le périmètre de la souffrance que l'on inflige et ce qui s'incarne dans celui de la souffrance que l'on regarde du dehors. Au moment où l'un des protagonistes, le sexe tranché, cesse de pouvoir jouir, ce dernier, lui, jouit et surmonte ainsi, grâce à l'image extrême, sa propre angoisse de castration. Il s'agit là par ailleurs d'un topos de l'imaginaire qui entoure la réception du snuff, où l'on jouit sexuellement à la seule condition que l'autre souffre le martyr et meurt. Que ce soit dans American Psycho, La sirène rouge de Dantec ou le film I Love Snuff, où un homme qui jusqu'alors n'arrivait pas à jouir y parvient lorsqu'il visionne sur son magnétoscope la mise à mort de sa compagne prise en otage par des tortionnaires. Houellebecq nous présente le paradoxe d'une société prise dans sa propre sidération tout en étant consciente, comme tétanisée, de celle-ci, ce dont témoigne la mise en abîme à l'intérieur de la fiction de l'hypothèse Macmillan. Celle-ci est prétexte à un exposé digne des romans philosophiques sadiens, témoignant de l'intertextualité dont est tissé le texte houellebecquien, toujours en dialogue avec une certaine vulgate des sciences humaines contemporaines. Je cite donc, « Selon lui, il ne s'agissait pas seulement de juger un groupe d'hommes, mais l'ensemble d'une société. Cette affaire lui paraissait symptomatique de la décadence sociologique et morale dans laquelle s'enfonçait la société américaine depuis les années 50. » La fin des années 50. Or, arroseur arrosé de l'herméneutique, nous trouvons là exposé en miroir se contemplant lui-même les théories mêmes par lesquelles on serait tenté de comprendre non seulement le phénomène évoqué intradiégétiquement, les snuff movies, mais le regard porté par le texte lui-même. Donc Ardenne ou Lipovetsky deviennent ainsi, peut-être nous-mêmes le devenons à notre tour, en un jeu borgésien, des sortes de doubles du personnage fictionnel Macmillan, qui, plaçant tout le frénétisme de l'extrême contemporain à l'ombre du divin marquis, expose donc ces théories. Ils étaient en fait, et je cite, « tout comme leur maître le marquis de Sade, des matérialistes absolus, des jouisseurs à la recherche de sensations nerveuses de plus en plus violentes. » Selon Macmillan, la destruction progressive des valeurs morales au cours des années 60, 70, 80, puis 90 était un processus logique et inéluctable. Après avoir épuisé les jouissances sexuelles, il était normal que les individus libérés des contraintes morales ordinaires se tournent vers les jouissances plus larges de la cruauté. Dans cette généalogie de l'immoralisme contemporain, Houellebecq revient à son Kulturkampf mélancolico-dépressif contre le legs de la prétendue révolution sexuelle, dont la figure extrême du serial killer serait le paradoxal parachèvement. Donc, selon Macmillan, ce basculement intervenu dans les civilisations occidentales n'était rien d'autre qu'un retour au culte brutal de la force, un refus des règles séculaires, lentement bâti au nom de la morale et du droit. Actionnistes viennois, beatniks, hippies et tueurs en série se rejoignaient en ce qu'ils étaient des libertaires intégraux, qu'ils prenaient l'affirmation intégrale des droits de l'individu face à toutes les normes sociales, à toutes les hypocrisies que constituaient selon eux la morale, le sentiment, la justice et la pitié. En un sens, Charles Manson n'était nullement une déviation monstrueuse de l'expérience hippie, mais son aboutissement logique. Des communes libertaires des 60s aux snuff movies, il y aurait donc une progression logique, celle du triomphe de Calliclès, partisan avançade du désir sans limite. C'est dans le Gorgias de Platon, donc, remplir tous ses désirs à mesure qu'ils éclosent. Une libération qui passe encore une fois par l'extrémisation. Le sujet qui réussit, c'est le sujet qui s'extrémise, je cite Ardenne, celui dont la vie pulvérise, borne et norme, indépendamment des critères moraux ou de bienséance en cours. Autrement dit, le champion, quelle que soit sa partie, sportive, l'athlète majeur, politique, le leader global, médiatique, l'animateur vedette, moral, le chef religieux, culturel, la star, sexuelle, la star porno, ou criminel, le serial killer. Ce dernier constitue de fait l'envers thanatique de cette créature de l'extrême qu'est le recordman. Le record fait rêver et fait envie, s'y transcende la figure du champion. Le recordman est un corps absolu, un corps d'absolu. Qu'il s'agisse avec Steve Fossett de faire le tour du monde en des conditions à chaque fois plus extrêmes, ou avec Annie Sprinkle qui a comptabilisé avoir vidé autant de pénis qu'il en faut pour égaler en dimension, une fois ceci mis bout à bout, les quelques 350 mètres de hauteur de l'Empire State Building, sans les antennes, elle précise. Péremption de l'axiologie, de l'intérêt manifesté pour les valeurs morales, et triomphe concomitant des valeurs indexées sur la jouissance qu'on se donne et qu'on atteint. Je cite toujours Ardenne. Du coup, c'est une fois encore l'ombre des libertins à passion cruelle, sadien et frénétique qui se profile sur notre âge qui se veut post-moral, donc selon les termes de Lipovetsky, réintroduisant le vieux fond pessimiste du homo homini lupus, hobbesien puis freudien. Et encore une fois, on observe comment la haute littérature ne cesse de puiser dans le sadopop, de plus en plus triomphal, pour se ressourcer et dire le malaise qui la fonde. Ici, le détour par les snuff movies. Néanmoins, on ne peut pas dire que la réflexion constitue ici le pur négatif hegelien d'une consommation de masse aliénante. L'analyse que fait Cronenberg, par exemple, de la pulsion scopique de nos sociétés de l'extrême dans Vidéodrome, ne peut nullement être considérée plus naïve, ou plus aliénante, ou plus sensationnaliste que celle que propose Houellebecq. De fait, nous sommes dans un parfait chassé-croisé des codes où l'auteur littéraire puise dans les matériaux du sadopop pour bâtir son œuvre et aussi son succès médiatique, tandis que le sadopop lui-même puise dans les analyses critiques de la culture savante pour reconfigurer ses propres mythes. Ironiquement, au bout du processus, c'est la littérature de circuit restreint qui non seulement s'abreuve au sadopop pour nourrir sa créativité, selon un processus déjà étudié par Bakhtin dans les littératures européennes de la première modernité, et sa réflexion, dont on ne peut pas toujours dire qu'elle dépasse la complexité de son objet, mais fonctionne désormais sur les mêmes principes d'exploitation sensationnaliste. De cette mécanique d'action concertée, la polémique suscitée par l'apparition lors de la rentrée littéraire 2002 des romans Rose Bonbon de Nicolas Jean Gorlin, où il entrerait dans la légende de Luis Corretti, Prissade précisément, fournit comme on sait un exemple d'école à la limite du caricatural. Sans la presse qui publie maintenant les passages les plus choquants de ces textes, hors de leur contexte, bref, sans ce battage médiatique, ces deux romans fussent probablement passés inaperçus, souligne Régine Desforges, tandis que Alexis Liebert décrit « Le filon de l'immonde » en Marianne, où Philippe Muret y voit une demande pathétique de censure et une parfaite illustration de sa théorie de l'envie du pénal sur le mode « J'ai une provocation, qui a une persécution ?» Le jeu de la transgression serait-il ainsi devenu le simple jeu de l'exploitation de la transgression qui a longtemps caractérisé le sadopop? Et ce dernier serait-il paradoxalement devenu, en intégrant les codes de la haute culture qui longtemps le postula comme son double honteux, le seul territoire véritablement transgresseur de notre époque, avec des œuvres telles que Lost Girls d'Alan Moore, Lord Horror de David Britton et Michael Butterworth, ou A Serbian Movie? Ou bien est-ce que tout ce système de la transgression établi par la modernité sadienne est-il exténué, parachevé dans sa pure spectacularisation, toutes catégories confondues? En 1980, John Duncan réalise sa célèbre action Blind Date. Il se rend à Tijuana dans une morgue, s'accouple jusqu'à l'orgasme avec le cadavre d'une femme, rentre en Californie, se fait faire une vasectomie. « Pour m'assurer que mon dernier sperme fertile aura profité à un corps mort », dit-il. Il enregistre une cassette pendant ses ébats avec la morte, dans le but d'expliquer sa démarche artistique et de dénoncer l'éducation qu'il avait reçue. I wanted to punish myself as thoroughly as I could. I decided to have a vasectomy, but that wasn't enough. I wanted my last potent seed to be spent in a dead body. Le livre cassette, qui s'appelle Pleasure Escape, 1981, vous l'avez maintenant sur Internet, connut un vague statut culte pendant un temps, bien que le magazine High Performance refusa de publier le compte-rendu de l'action. 20 ans plus tard, l'artiste chinois du groupe cadavre, Zhu Yu, cuisine un enfant mort-né et l'ingurgite lors d'une exposition intitulée Fuck Off. Comme pour illustrer les théories de l'hypothèse Macmillan, il se prévaut pour son geste profanateur de, je cite, « l'affranchissement des règles communes et des limites communément acceptées, en vertu du relativisme généralisé des normes et des règles ». Donc il y a toute une justification de cette action. Je ne crois pas, pour en conclusion, il dit « je ne crois pas qu'il existe un ordre fondamental ». Or, aussi radicales qu'elles puissent paraître, ces actions sont désormais dépassées par l'extrémisme de l'artefact culturel le plus extrême qui nous soit encore échu, la webosphère, véritable championnat d'atrocité à la gloire du grand guignol, où tous les coups sont permis pour tracer un véritable paysage des dégradations, selon le terme de Ardenne. Ainsi, le site le plus connu dans ce cyberextrémisme qui vise sans cesse à abolir les limites sous couvert du virtuel, rotten.com, le mal à l'état brut depuis 1996, selon leur motto, où, outre une quantité effarante de cadavres dans les états de destruction les plus macabres, en cela il s'agit d'un site très strictement néo-baroque, par où l'on peut mesurer comment l'éviction du paradigme métaphysique du premier baroque voue à ses formes de revenance au pur extrémisme sans finalité, on peut voir dans le concours Fuck of the Month, of the Month d'ailleurs, ouais, c'est aussi of the Month, vous allez voir, Fuck of the Month du site, une femme nue face à la caméra, ses seins pincés étendus par des chaînes, ses yeux bandés, sa tête maintenue vers l'objectif par un tiers. Autour de sa bouche grande ouverte, arrosée de sperme, on peut lire cette mention au marqueur. Trou habite. On ne représente plus, on ne simule plus, on ne joue plus, on enregistre, écrit Ardenne. Quoi ? La nature même de l'horreur dans son exactitude morphologique et plastique. Regardez, c'est devoir de l'or combattre contre la nausée, devoir combattre aussi contre la limite intime. Face à de telles explosions néo-baroques, et on pourrait aussi dire néo-frénétiques, parce que je n'ai pas parlé du frénétisme, mais c'était toute une partie. Donc, de fantasmes de civilisation, lointains héritières des histoires tragiques et des fantasmagories sadiennes, une autre série de questions s'impose. Dans cette nouvelle pastorale de la peur, sans transcendance possible, la profanation est-elle devenue l'unique aspect moderne du sacré ? Ou bien l'explicite gore, et plus encore un amalgame propre de notre extrémisation terminale porno-gore, est-il la marque d'un nouvel humanisme opposé à la désubstantialisation, la médiatisation et la médicalisation de la mort ? Ou bien encore ne s'agit-il que d'un simple symptôme malsain de l'indifférence post-morale et du culte des abusés de la violence ? Mais cela, chers amis, ce sera pour une autre discussion.